Dame Sagesse, créée. Les trois premiers aspects sont extrêmement simples. Gestionnaire pour Dieu en Genèse 1, aide complémentaire en Genèse 2 et dispensatrice de vie en Genèse 3. Mais pour trouver notre quatrième vision absolue de la femme, nous devons nous reporter à la littérature sur la sagesse. Beaucoup de passages de Genèse 3 à Proverbes amplifient les trois premiers aspects et présentent les deux derniers. Mais, à mon avis, il n'y a pas de passage définissant un nouvel aspect dans ces pages. En Proverbes, cependant, nous voyons non seulement la féminité sous un nouvel angle, mais nous rencontrons également la première entité féminine, une féminité qui existait avant même la création d'Ève. Dans Proverbes chapitre 1 au chapitre 9, la sagesse est personnifiée par une grande dame qui est l'aide et la compagne de Dieu, ainsi que l'enseignante et la conseillère de l'homme. Cette personnification, ainsi que les exemples de rôles féminins qui suivent, donnés dans le livre des Proverbes, fournissent une quatrième vision de la féminité, l'aspect de la sagesse. Certaines personnes trouvent cet aspect difficile. Ces passages et ces concepts ne nous sont pas forcément familiers, ou bien peut-être avez-vous reçu un enseignement qui contredit ce que j'explique. Beaucoup de personnes enseignent que la personnification de la sagesse féminine dans le livre des Proverbes est Christ. Les féministes enseignent de plus en plus que c'est la déesse Sophia que l'on doit adorer. Je pense qu'aucune de ces interprétations n'est correcte. Nous devons tout d'abord nous demander qui est ou ce qu'est la sagesse féminine. Dans le prologue au Proverbe, chapitre 1 à 9, Salomon insiste vis-à-vis de ses lecteurs sur le fait que la vie entière est un choix entre la sagesse et la folie. Il présente les deux comme étant des femmes. La dame sagesse dispense la vie par la discipline et la formation. La femme folie nous conduit à la mort grâce à la tromperie et au plaisir de la chair. La sagesse personnifiée par une femme parle au chapitre 1, 8 et 9. Elle parle de ses origines dans Proverbe 8, versets 22 à 26. L'Éternel m'a acquise au commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établie depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfantée quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfantée. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Si ce passage enseigne une chose, c'est que quoi qu'elle ait pu être, cette entité existait avant le monde physique. Il insiste à plusieurs reprises sur le fait qu'elle existait avant l'eau, la terre, les montagnes et toutes les créations matérielles de Dieu. Certaines personnes pensent que cette entité est Christ. Ils font référence au fait que Jean a dit que le monde a été créé par Christ et Paul qui dit que Christ est notre sagesse. En conséquence, ils affirment que cette entité est Christ. Néanmoins, cette interprétation n'est pas fidèle au contexte de Proverbes. Cette entité a clairement un commencement. Elle n'est pas éternelle. Le verbe traduit par acquise ou possédée dans Proverbes 8, verset 22 serait mieux traduit par créée. S'il y a un doute à ce sujet, il est dit au verset 24 et 25 que cette entité fut enfantée. Cette entité n'est pas Dieu, c'est plutôt le premier des actes créateurs de Dieu, comme le verset 22 l'affirme clairement. Avant la création, Christ était Dieu éternel. Il n'a pas de commencement dans l'éternité. Son seul commencement comme créature s'est produit dans l'histoire il y a 2000 ans, dans le sein de Marie. La sagesse de Proverbes est un ensemble de principes. Ce n'est ni Christ et sûrement pas une déesse. Comme le grand architecte et artiste qu'il est, Dieu créa premièrement une maquette, le plan de son univers. Dans son esprit, il établit ou nomma les principes qui allaient donner la matière et la structure de son univers. Il s'agit de la sagesse qu'il a enfantée avant ses premiers actes créateurs. Le mot traduit « depuis l'éternité » ne signifie pas nécessairement « éternel ». Cela signifie souvent, comme c'est le cas dans ce contexte, « depuis les anciens temps ». Nous allons voir deux exemples de ces principes créationnels ou de ces principes de sagesse, la physique et la morale. La physique est l'étude des principes qui régissent le monde physique. La gravité ainsi que l'énergie électromagnétique et nucléaire sont à la base de la structure de la création. Galilée a dit que les mathématiques étaient l'alphabet de Dieu. Les maths décrivent les principes sous-jacents au fonctionnement de l'univers, l'énergie, la matière, la lumière, le temps, etc. Dieu a développé les principes de conception de l'univers physique avant de l'édifier. En Job 40 et 41, Dieu pose à Job environ 70 questions sur l'univers, particulièrement sur les lois naturelles, questions auxquelles Job n'a pas pu répondre. Dieu veut dire que la sagesse et la puissance qui encadrent l'univers ne sont finalement qu'à lui seul. Tout comme avec la physique et la nature, des principes moraux consolident la conception de la vie. On récolte ce qu'on sème. Est-ce un principe chrétien? Est-ce un principe juif? Il existe plusieurs versions de ce dicton dans le monde entier. En voici deux. L'orgueil précède la chute, ou bien celui qui veille sur sa bouche garde son âme. On pourrait citer beaucoup de ces proverbes. Tout comme les physiciens codifient les principes qui régissent le monde physique, les professeurs de sagesse codifient les principes qui gouvernent la société par des dictons lapidaires. Voilà ce que sont les strophes du livre des proverbes. La sagesse n'est pas réellement une dame, ni une femme. Elle est en fait l'ensemble des principes de création par lesquels Dieu a créé l'univers et par lesquels il le soutient. Depuis la chute, les principes de la mort et du chaos ont été ajoutés. Mais en dépit de la malédiction, l'univers est maintenu, les montagnes, les planètes, les plantes, les animaux et le modèle moral de la société. Dieu a maintenu ses principes de sagesse qui donnent à la création son ordre, sa beauté et sa structure. Au sens littéral, la sagesse est l'ensemble des principes créationnels de Dieu. Au sens figuré, elle est personnifiée comme une femme. La sagesse et les femmes partagent des rôles féminins envers Dieu et les hommes. Est-ce que cette féminité signifie quelque chose? La masculinité est enracinée dans le Dieu trinitaire. La féminité est enracinée dans la création. La sagesse et les femmes partagent des rôles féminins envers Dieu et envers les hommes. Nous approfondirons ces vérités dans les leçons suivantes. Pour le moment, nous allons nous cantonner à mieux comprendre la sagesse et pourquoi elle est personnifiée comme une femme. Dans Proverbe 8, versets 30 à 31, la sagesse déclare « J'étais à l'œuvre auprès de lui, donc Dieu, et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. » Dans l'éternité passée, avant que toute chose existe, la Trinité masculine, Père, Fils et Saint-Esprit, existait dans l'amour et dans la gloire. Avant que la Trinité ne crée l'univers physique, elle a créé la sagesse, les principes scientifiques, naturels et moraux qui gouverneraient et donneraient sa beauté à la création tout entière. Pris ensemble, ces principes ont exercé des rôles féminins pour Dieu, en agissant comme aide et compagne et en le glorifiant. Étant présente avec Dieu dans son travail, la sagesse prenait plaisir en lui et dans ce qu'il faisait. Quel est le rôle de la sagesse envers l'humanité? De quelle façon agit-elle envers les êtres humains? Proverbe 8, versets 1 à 7, décrit ses activités de la façon suivante. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place, à côté des portes, à l'entrée de la ville. À l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. La sagesse en appelle à l'humanité au chapitre 1, 8 et 9. Elle crie aux croisées des routes, au sommet des hauteurs, et elle envoie ses servantes également. Proverbe 9, versets 1 à 6 dit « La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes, elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes, elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville. Que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, « Venez, mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Quittez la stupidité et vous vivrez, et marchez dans la voie de l'intelligence. » C'est l'image d'une grande dame royale debout à l'entrée de son domaine. Un grand palais se dresse derrière elle et un banquet somptueux l'attend à l'intérieur. Elle sort avec ses servantes pour inviter les gens sur les routes et les sentiers à entrer, à apprendre d'elle et à bénéficier de ses richesses. La plupart ne vont pas chez elle et continuent à descendre vers le large chemin qui mène à la destruction. On pourrait dire « Mais je ne vois pas de femme assise au coin des rues. De quoi Salomon est-il en train de parler ?» Il parle de la révélation générale qu'on trouve dans la création et qui proclame continuellement la vérité de Dieu et nous appelle à faire des choix d'ordre moral. La révélation spéciale est la vérité verbale et écrite communiquée dans la Bible. La révélation générale est ce que nous pouvons voir de Dieu et de sa vérité dans la création chaque jour. Romains 1, verset 20 affirme. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Il y a une révélation constante qui dure. La merveilleuse structure morale de l'univers qui nous interpelle à chaque coin de rue. Salomon la décrit sous l'aspect d'une grande dame qui, avec ses servantes, nous invite à son banquet. En Proverbe 1, versets 22 à 26, la sagesse s'adresse aux stupides qui la rendent mécontente. Jusqu'à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous passerez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Le rejet total du sot et de sa sottise par la sagesse est une évidence que cette personnification des proverbes n'est pas Christ. Dieu pardonne et étend souvent sa grâce aux sots, même à l'heure de leur mort, comme il l'a fait pour Samson et pour le brigand sur la croix. Le fils prodigue a fait preuve de sottise lui aussi, mais son père l'a reçu néanmoins avec joie à son retour. La sagesse par ailleurs n'est pas une personne, c'est un ensemble impersonnel de principes qui ressemble assez à l'ensemble des rouages de la justice. Les principes moraux de l'univers de Dieu ne changent pas, même quand Dieu nous pardonne gracieusement et personnellement. La dernière prière de Samson a été exaucée, mais il est quand même mort, en prisonnier aveugle dans un temple païen. Le brigand sur la croix est quand même mort, crucifié à cause de ses crimes. Le fils prodigue, pourtant gracieusement reçu et pardonné par son père, avait quand même gaspillé son héritage et sa jeunesse. Supposons que vous preniez des cours de chinois et que vous ne faites rien de tout le semestre. Vous êtes paresseuse et vous manquez les cours, la moitié du temps. Vous arrivez à l'examen final, et devinez quoi? Pour vous, c'est du chinois. À ce moment-là, vous pouvez prier. « Oh Jésus, je regrette de ne pas avoir travaillé. » Jésus va vous pardonner, mais pas la sagesse. La science des langues ne va pas venir se percher par magie sur votre épaule et vous donner toutes les réponses. Vous avez rejeté la discipline lorsqu'elle vous faisait signe pendant le semestre, et maintenant, elle vous rejette. Ou peut-être avez-vous oublié de mettre de l'argent sur votre compte courant, mais vous continuez à faire des chèques. Et soudain, ils deviennent des chèques en bois, et vous recevez une lettre qui dit « Fonds insuffisants ». Vous dites « Je suis désolée d'avoir oublié d'alimenter mon compte ». C'est très bien d'être désolé, mais il n'y a toujours pas d'argent sur le compte, et vous finissez par ne plus avoir ni gaz ni électricité. La sagesse et les rouages de la justice continuent. Je connais un jeune homme qui a été bouleversé la première fois qu'il a lu que la sagesse rejette les insensés dans Proverbe 1. Il pensait que cela voulait dire que Dieu serait pour toujours très en colère contre lui. Mais Proverbe 1 ne dit pas que Christ rejette les insensés qui se repentent. Proverbe 1 dit que la sagesse rejette les insensés qui la rejettent. Il y a un temps pour rechercher la connaissance et la discipline, mais si nous rejetons cette invitation, nous récoltons ce que nous avons semé et nous sommes rassasiés de notre propre folie. Ces élèves sont les seuls que la sagesse aide au moment de l'épreuve. La sagesse est une hôtesse qui invite tout le monde, mais elle réprimande également. Elle ose dire quand les gens ont tort et elle leur apprend ce qui est bien. Elle est partisane de la manière forte. Elle est semblable à une mère qui discipline ses enfants, à un instituteur qui s'est promis de ne pas sourire à ses élèves avant Noël, ou bien à l'infirmière qui s'attend à ce que l'on prenne ses médicaments. En tant que chrétiens bibliques, nous avons raison de défendre la soumission de la femme. Cependant, nous ne devons pas négliger le rôle de la femme qui consiste à reprendre les jeunes insensés. Les femmes sages gèrent leur domaine avec l'épée de l'esprit et parfois avec le bâton de la correction. Les enfants trouvent la paix et la liberté, grâce à la bonté et l'amour de leur dispensatrice de vie, mais aussi grâce à sa discipline sage et constante. Même si elle est stricte, la sagesse a un côté beau et doux qui est seulement vu par ceux qui la poursuivent et se détournent de la folie. Écoutez dans Proverbe 4, versets 5 à 12, quand le père fait l'éloge des bénéfices de la sagesse à son fils. « Acquiers la sagesse, acquiers l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. » Voici le commencement de la sagesse. Acquiers la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Écoute, mon fils, et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Et si tu cours, tu ne chancelleras point. Quelle incroyable richesse de bénéfices est attribuée à la sagesse. Réfléchissez à cette liste de bénédictions, promises dans Proverbes chapitre 1 au chapitre 9, à ceux qui recherchent la sagesse et acceptent ses réprimandes. Elle donne un profit meilleur que l'argent, un gain plus précieux que l'or, une longue vie, des richesses, de l'honneur, des chemins plaisants, la paix, le bonheur, la vie de l'âme, Une parure, la sécurité, un sommeil doux, le courage et l'exaltation. Si vous acceptez son enseignement et apprenez ses manières, elle deviendra votre protectrice et votre bienfaitrice. Elle vous comblera de ses bienfaits. Elle fera tout ce qu'elle peut pour faciliter vos pas et en fait, elle vous exaltera. La sagesse invite tout le monde. Elle reprend et réprimande les faux. Elle enseigne et elle conseille ses élèves. Elle protège et elle est l'amie de ceux qui la poursuivent. Elle est la bienfaitrice et la glorificatrice des hommes sages. Espérons que l'histoire fictive suivante illustrera ces rôles, ainsi que leur progression. L'histoire de Sophie Régent. Sophie Régent avait toujours aimé la musique. Dans sa petite ville d'origine, un professeur lui avait appris les bases et l'avait encouragée à poursuivre ses études. Elle avait continué à l'université et avait obtenu une bourse pour entrer dans un illustre conservatoire. Elle avait donné plusieurs concerts de qualité dans des salles prestigieuses. Puis, par un concours de circonstances, Sophie s'était ensuite retrouvée dans une autre petite ville à la tête de sa propre école de musique. Sa publicité disait invariablement « J'enseigne le piano ainsi que le répertoire de base. Soyez prêts à travailler. Je mettrai fin au cours si vous ne respectez pas vos heures de travail. » Elle avait effectivement mis en pratique cette dernière partie. Elle avait congédié les élèves qui ne s'entraînaient pas et s'en était trouvée un peu plus pauvre financièrement. Mais elle avait gardé son exigence et c'était ce qui lui semblait le plus important. Et les futurs Mozart défilaient. Certains avec des nattes et pleins de taches de rousseur, d'autres avec des coupes de cheveux ultra courtes et leurs blue jeans rapiécés à plusieurs reprises. D'autres étaient réservés et portaient même leurs vêtements du dimanche. Mais pour la plupart d'entre eux, c'était un fiasco en musique. La plupart étaient partis au bout de 3 semaines. Les suivants à partir étaient ceux qui avaient du talent, mais pas de cœur, c'est-à-dire ni amour ni respect pour le matériel ou le professeur. Sophie détestait voir le talent gâché, mais elle avait déjà appris à les laisser partir. Le plus dur était pour ceux qui avaient un caractère bon et doux, mais pas de talent. Il était difficile de dire aux parents que leurs enfants n'arriveraient jamais à jouer du piano. Mais un jour, c'est enfin arrivé. Un garçon venait depuis 3 semaines. Il ne semblait pas différent de tant d'autres. Il n'était pas impoli, mais pas non plus trop poli. Sophie avait été étonnée les semaines précédentes de la vitesse à laquelle il avait maîtrisé les leçons initiales. Mais à présent, aujourd'hui même, il était en train de présenter, avec de la finesse d'exécution et du sentiment, un morceau pour débutants sur lequel elle passait d'ordinaire 6 semaines. Et il y avait autre chose, sa façon d'être, qui d'ordinaire lui faisait penser à quelqu'un qui s'étire paresseusement comme du chewing-gum, était différent lorsqu'il jouait. Qu'est-ce que c'était? La concentration? L'intensité? Le désir? Pour la première fois depuis longtemps, Sophie devait lutter pour garder son sang-froid. Elle dit seulement « Thomas, tu dois travailler davantage la section du milieu. Reprends-la encore pendant que je vais chercher un verre d'eau à la cuisine. » Mais elle avait plutôt envie de crier à tue-tête. « Dieu soit loué, je crois qu'il m'a envoyé un vrai pianiste. » Les quelques années qui suivirent furent difficiles pour Sophie et Thomas. Sophie croyait fermement qu'à ce stade, sa mission la plus importante était d'équiper Thomas d'une compétence technique fondamentale et de bonnes habitudes musicales. Elle ne devait pas s'autoriser ou lui autoriser le luxe de compter sur son talent aux dépens de l'apprentissage. Leur dispute la plus explosive s'était produite le jour précédent un récital quand il avait 13 ans. Il voulait jouer un morceau tape à l'œil pour impressionner. Elle lui avait dit « Tu ne peux pas jouer ce morceau pour mon récital parce que tu ne sais pas le jouer correctement. » Ce à quoi Thomas avait répondu en criant « Eh bien, j'improviserai. » À quoi Sophie avait répondu en hurlant « C'est exactement ce que je ne te permets pas de faire. » Il était sorti en claquant la porte. Elle fut affligée tout le reste de la journée, se demandant si elle ne l'avait pas perdu pour de bon. À sa surprise, il était venu au récital le soir suivant, calme, mais en évitant son regard. Il avait joué consciencieusement le morceau qu'elle avait choisi, peut-être sans enthousiasme, mais au moins avec compétence. Les années suivantes ont été les plus heureuses que Sophie n'ait jamais connues comme professeur de musique. Elle avait fidèlement persévéré et avait enraciné Thomas dans des disciplines musicales fondamentales dont il aurait besoin dans l'avenir. Et maintenant, il pouvait accéder au sommet de la communion musicale. Il passait des heures à discuter compositeurs, œuvres, interprétations, prestations. Elle partageait ses vues les plus précieuses, celles qui lui avaient pris toute une vie de musicienne à glaner. Thomas était allé ensuite à l'université et avait étudié avec 2 bons professeurs. Sophie connaissait pratiquement toute la faculté de musique. Elle s'était servie de tous ses contacts pour lui faciliter les choses. Mais ce dont elle avait été le plus fière avait été de l'aider à être admis dans son ancien conservatoire. Finalement, le soir où Thomas devait donner son premier concert est arrivé. Sophie n'était plus une jeune femme ni une femme d'un Moyen Âge, mais elle s'était habillée avec un soin tout particulier et était entrée dans la salle de concert avec une allure à la fois royale et heureuse. Thomas ne l'avait pas déçu, ni elle, ni qui que ce soit d'autre. Son concert avait été merveilleux, comme l'avait prouvé l'ovation tonitruante du public qui s'était levé. Les premières roses qu'il avait reçues venaient de Sophie. Elle s'était arrangée pour qu'il en soit ainsi. C'est l'histoire d'une dame de sagesse humaine. Elle a invité tout le monde, mais elle a réprimandé et a exigé la perfection, ce qui a eu pour résultat beaucoup d'abandon. Lorsqu'elle a trouvé le bon élève, elle a exigé encore plus. Sophie et Thomas ont surmonté les difficultés de l'apprentissage et sont arrivés à la clairière merveilleuse de la communion, qui est la demeure particulière des professeurs et des élèves qui partagent l'amour et la maîtrise de leur discipline. Après cela, elle a fait tout ce qu'elle a pu pour le suivre et l'aider dans sa carrière. Finalement, elle l'a glorifié, s'est levée et l'a applaudi, en lui envoyant son hommage, parce qu'il l'avait gagné en étant un homme sage et doué. Révision. Qui est la dame de sagesse? Elle est la personnification d'un ensemble de principes créationnels qui exercent des rôles féminins. Elle est l'aide de Dieu, sa compagne et sa glorificatrice dans l'ordre de la création. Elle invite, réprimande, enseigne et conseille les gens. Elle est la protectrice, la bienfaitrice et la glorificatrice de ceux qui sont sages. La féminité de la sagesse est importante parce qu'elle fournit des éléments cruciaux sur les femmes. Plusieurs critiques de la féminité traditionnelle accusent de telles femmes d'être puériles. Elles sont naïves, idiotes, s'ennuient fréquemment ou sont dépressives. Beaucoup pensent que c'est uniquement en rejetant la féminité qu'on pourra aider les femmes naïves et dépressives, puisque selon eux, la féminité est synonyme de faiblesse. La force réside dans la masculinité. Les femmes devraient donc rechercher des rythmes, des styles de vie et des rôles masculins. D'autres recommandent l'androgynie. Faisons disparaître la masculinité et la fémininité tout à fait, et efforçons-nous d'être de simples êtres humains qui s'aiment et se respectent réciproquement. Il est normal et bon que la femme désire de la force intérieure, l'estime de soi et le respect des autres. Trop de femmes ont cru que les diplômes et les titres professionnels, le travail à l'extérieur et le fait de pouvoir gagner de l'argent étaient les clés de l'assurance, de la sécurité et du respect. Mais la Bible enseigne clairement que c'est la femme qui craint l'Éternel qui acquérera de la force intérieure et sera respectée. La véritable manière dont une femme peut acquérir de la profondeur de caractère, l'estime de soi et l'honneur est de devenir une femme d'excellence, une femme vraiment sage, exerçant les rôles de la sagesse féminine appropriés à sa vie. Le poids et la profondeur proviennent de notre caractère fondamental et non de nos mérites extérieurs. Comment peut-on devenir sage? Qu'est-ce que c'est la sagesse biblique? La sagesse dans sa forme la plus simple est la compétence. Savoir faire du vélo et de la sagesse du cyclisme. Piquer à la machine et la sagesse de la couture. Savoir marcher sur une corde rapide est une autre forme de sagesse physique. Toutes ces formes de sagesse se rapportent à la maîtrise des principes physiques, qui nous permettent de produire quelque chose avec compétence dans différents domaines. Toutes les compétences physiques se réduisent à cela. La première mention de la sagesse, dans la Bible, a trait à la compétence de couturière des femmes qui ont cousu les rideaux du tabernacle et la compétence de métallurgiste des orfèvres qui ont fait des choses magnifiques. Ils ont pu produire avec compétence parce qu'ils avaient maîtrisé le travail du tissu et du métal. C'est une forme de sagesse. Une autre forme de sagesse est la compréhension. Les principes de la sagesse incluent les exemples de vie naturelle et moraux. La sagesse cherche à pénétrer le pourquoi de ce qui est, du mystère de ce monde. Pourquoi la souffrance existe-t-elle? Qu'est-ce que c'est que l'adoration véritable? Qu'est-ce que c'est la sagesse et vivre avec sagesse? Quelles sont les limites de la mortalité? Quelle est la nature de l'amour romantique? Les livres de sagesse de Job, des psaumes, des proverbes, de l'Ecclésiaste et du Cantique des Cantiques abordent toutes ces questions. La première forme de sagesse et la plus élémentaire, c'est la compétence pratique dans notre monde physique. La deuxième forme est la compréhension des mystères de la vie. Finalement, la racine de toute sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte respectueuse du vrai Dieu est la base de toute la compréhension et de la moralité. Les incroyants peuvent avoir de la moralité. Ils peuvent avoir la compréhension de beaucoup de choses, et ils possèdent certainement des compétences pratiques très variées. Mais finalement, le livre des Proverbes nous dit que la racine de la sagesse est la crainte respectueuse du Dieu qui a créé tous ses principes. Toutes les femmes ont besoin d'être compétentes au sens pratique. Ce n'est pas suffisant d'être simplement douce. Cela n'est pas suffisant d'avoir de bonnes intentions si vous vous laissez aller. Dieu veut que vous soyez des personnes compétentes de façon très pratique. Lorsque vous avez fait l'inventaire, au chapitre gestionnaire pour Dieu, j'espère que vous avez isolé les domaines dans lesquels vous étiez déjà devenue compétente ou peut-être d'autres domaines dans lesquels vous avez l'intention de devenir compétente. Vous pouvez rechercher la compétence dans le domaine universitaire ou bien dans des ateliers créatifs au centre socio-culturel de votre ville. Vous pouvez rechercher des compétences dans l'étude de la Bible dont vous avez besoin mais que vous avez négligé. Mentionnez n'importe quoi, de la vente de fruits et légumes à l'étude de l'évangile de Jean. Toutes les disciplines nécessitent de la compétence. Les femmes sages ne sont pas seulement travailleuses, elles pensent aussi et réfléchissent. Vous devrez étudier, écouter les personnes remplies de sagesse, réfléchir, méditer et penser pour avoir de la sagesse. Marie, la mère de Jésus, a réfléchi à tout ce qui a pu se passer. L'Annonciation, les bergers, les anges, l'enfance de Jésus. Elle acceptait les grandes œuvres de Dieu et y pensait. Elle n'était pas bavarde, mais quand elle parlait, des paroles ayant du poids et de la valeur sortaient. Son cantique, qui ne compte que 133 mots, a été connu au travers des siècles. L'aspect d'âme de sagesse est crucial pour la maturité féminine. Seulement, cet aspect est l'aspect gestionnaire pour Dieu, axe la femme sur sa vie en tant qu'individu devant Dieu et sur ses devoirs dans sa création. Aide complémentaire, dispensatrice de vie et gloire de l'homme, axe la femme sur les hommes, les enfants et les autres personnes. Beaucoup de femmes n'ont aucune identité individuelle parce qu'elles se voient seulement comme une extension de leur mari, de leurs enfants ou de leur groupe social. Les féministes ont mis cette question sur le tapis de manière répétée. La réponse à cette faiblesse n'est pas de devenir moins relationnelle. Être relationnelle est une chose fondamentale à notre féminité et à notre ministère. La réponse est d'être enracinée individuellement en Dieu et dans sa parole en vivant dans ce monde. Même toute seule, la femme de Dieu mature a une identité parce qu'au plus profond d'elle-même, il y a la crainte du Seigneur, la compréhension de ses voies et la compétence pour servir. Les femmes compétentes et perspicaces qui craignent le Seigneur seront intronisées en valeureuses dirigeantes de la société. Cela ne veut pas nécessairement dire que vous appartiendrez à l'Assemblée nationale ou que vous serez présidente de la République. Cela veut dire que vous serez une personne influente de votre monde. Votre monde peut tout aussi bien être une petite communauté qu'un grand cercle social puissant, mais on vous respectera. Ce que vous direz comptera. Vous serez la tutrice du patrimoine et la protectrice des choses qui comptent. La féminité porte beaucoup sur le fait de protéger et garder des espaces intérieurs pour les autres. Dans la première leçon dispensatrice de vie, on a présenté 5 domaines intérieurs. Laissez-moi vous présenter 3 autres domaines intérieurs. Dans la dispensatrice de vie, nous avons parlé des domaines intérieurs de la virginité, de l'amour physique, du sein maternel, de la poitrine et de la maison. Cette fois-ci, réfléchissez au domaine de votre propre âme. Vos propres pensées intimes et vos sentiments en tant que femme constituent un royaume subjectif en eux-mêmes. La plupart des gens s'accordent à dire que l'être intérieur de la femme est bien plus riche et complexe que celui de l'homme. Ce n'est pas par hasard que Salomon a écrit le Cantique des Cantiques du point de vue de la femme. Réfléchissez à Anne et Marie, qui ont été à la fois de grandes dispensatrices de vie et des femmes de grande sagesse également. Le partenariat que Dieu veut avec les femmes ne consiste pas seulement à utiliser leur corps pour faire des bébés. Il veut utiliser leur cerveau pour le louer avec intelligence. Il n'est pas seulement le tisserand dans l'espace intérieur du ventre maternel. Il est le professeur dans le domaine intérieur de l'âme. Quand Dieu créait Samuel dans le ventre d'Anne, il fabriquait la connaissance de son travail futur dans son intelligence à elle. La prière d'Anne inclut des louanges pour de grandes œuvres que Dieu n'avait pas encore accomplies dans la vie de Samuel. La prière d'Anne commence par « Mon cœur se réjouit en l'Éternel ». 1000 ans plus tard, Marie, enceinte du roi dont Anne parlait, proclamait également « Mon âme exalte le Seigneur ». La louange humble et intelligente qui suit dans le cantique de Marie montre qu'elle a recherché la sagesse, qu'elle a tenu compte des réprimandes et qu'elle a incliné son cœur vers la compréhension. L'utérus et l'esprit d'une femme ne sont pas en guerre. L'âme de la femme est un jardin intérieur, tout comme son corps, qui doit être cultivé et rempli avec des trésors riches et précieux. Marie n'était pas une sotte qui regardait fixement pour oublier aussitôt. Elle réfléchissait aux expériences et attachait de la valeur à la vérité. Elle a réfléchi à l'annonce de l'ange Gabriel et elle a attaché de la valeur à tout ce que les bergers ont raconté au sujet de la multitude d'anges. Elle a été émerveillée avec Joseph des prophéties sur le bébé Jésus. Et même si elle n'a pas compris tout ce qu'a dit Jésus, elle a attaché de la valeur à toutes ses paroles. Quelquefois, nos âmes sont comme des jardins complètement envahis par les ronces de la confusion, de l'inquiétude, du tracas et de la sottise. Mais nos âmes devraient être comme de beaux jardins remplis de choses de valeur auxquelles on a réfléchi et attaché de la valeur au fil des ans. Beaucoup d'entre vous allez exprimer de façon artistique vos richesses intérieures, par le chant, l'écriture, la décoration florale, etc., selon vos ministères, comme Anne et Marie l'ont fait. Anne et Marie n'ont pas gagné beaucoup d'argent. Elles n'avaient pas de diplôme prestigieux, mais elles étaient sages. Elles avaient de la profondeur de caractère et elles exprimaient leur adoration à Dieu avec une grande compétence poétique. Leurs œuvres ont survécu jusqu'à ce jour parce que Dieu les a honorées dans les domaines extérieurs du monde où elles ne sont jamais allées. Un septième domaine intérieur pour les gens est la communauté. Nous pouvons définir la communauté comme un groupe de personnes organisées pour vivre ensemble. Avant de nous pencher sur la façon dont les femmes sages ont pu donner la vie au sein de leur communauté, voyons dans le livre de Ruth comment Bethléem peut nous servir d'un modèle de communauté. Le livre de Ruth est un joyau aux nombreuses facettes qui a été surnommé avec raison la plus grande nouvelle jamais rédigée. On pourra méditer sur ce livre toute notre vie et pourtant encore découvrir de nouvelles facettes merveilleuses. La plupart des étudiants de la Bible sont conscients qu'il nous révèle une histoire de rédemption, de loyauté et de romance. Étudions à présent comment elle nous montre un magnifique exemple de communauté. Selon notre définition, une communauté est un groupe de personnes organisées pour vivre ensemble. La vraie vie ne peut se dissocier de la justice, de la productivité, de l'amour et de la croissance. Très brièvement, considérons Bethléem sous ces quatre perspectives. Mais avant de le faire, il nous faut souligner que Bethléem n'est pas seulement une société sexuée, mais c'est une société avec des classes sociales. Quatre classes sont représentées. Le propriétaire, représenté par Boaz. Le manager, il répond à Boaz et dirige les ouvriers en Ruth 2, versets 5 à 7. Les ouvriers qui font la récolte. Et les pauvres déchus de leurs droits, Ruth et Naomi. La justice. En l'absence d'hommes de bien pour exercer la loi et l'ordre, il n'existe aucune justice. Les agressions sexuelles étaient courantes à Bethléem, tout comme le vol des récoltes et la négligence des veuves pauvres. Dans chacun de ces cas, les injustices ont été évitées grâce à Boaz, qui cherchait activement ce qui est juste. Il a ordonné à ses hommes de ne pas toucher Ruth, il a dormi à côté du grain pour le protéger des voleurs, et il s'est rendu directement aux portes de la ville pour informer son parent le plus proche de ses droits et responsabilités envers les veuves. La productivité. Il y avait du grain à Bethléem parce que Dieu avait allégé la famine et que le peuple travaillait de manière organisée. Boaz était un homme de bien qui avait de bonnes relations avec son manager et ses ouvriers. Boaz supervisait le travail, le manager dirigeait les ouvriers et les ouvriers travaillaient. Et ainsi, la récolte était engrangée et Bethléem portait son nom de maison du pain, à juste titre. L'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les facettes de l'amour sont nombreuses. La communion, l'engagement, l'empathie, la gentillesse, la générosité, un traitement équitable, l'attention, l'attitude de service, la soumission à l'autorité, la reconnaissance, la discrétion, la diligence et l'humilité. Chacune d'entre elles, et d'autres encore, sont manifestées spécifiquement par les acteurs du livre de Ruth. La croissance. Le livre de Ruth se termine par un mariage et un bébé. Et pas n'importe quel mariage, mais le mariage entre une personne de la classe la plus élevée, Boaz, le propriétaire, et une personne de la classe la plus basse, Ruth, la glaneuse moabite. Dans l'économie divine, les classes ne sont pas liées par les barrières rigides d'un orgueil propre juste, mais plutôt constituent des rôles différents au sein de l'équipe communautaire, flexibles et attentifs à la direction de Dieu à chaque tournant. De la même façon, la productivité n'est pas le fait d'amasser des richesses de façon égoïste et radine, mais plutôt une intendance généreuse des biens, comme Boaz le démontre magnifiquement. Ce qui vit véritablement, croit et avance vers l'avenir. Bethléem, cette communauté vivante et sa justice, sa productivité et son amour, croit et avance au travers du mariage de Boaz et de Ruth, ainsi que par leur fils Obed, non seulement dans le futur du Xe siècle avant Jésus-Christ, mais jusque dans l'histoire du monde. La vie communautaire possède un côté extérieur et public, ainsi qu'un côté intérieur et personnel. Les leaders masculins sont responsables du premier, alors que les femmes influentes et de distinction sont principalement responsables du second. Dans le plan de Dieu, les femmes de chaque famille, église et ville devraient être les actrices principales et les partenaires clés de Dieu pour prendre soin des autres. Avant, nous avions dans le gouvernement le ministère de la Santé. On a changé son nom en ministère des Solidarités et de la Santé. Combien il serait préférable si les communautés pouvaient compter davantage sur leurs femmes sages au niveau local pour la santé, l'éducation et la solidarité, plutôt que de compter sur cette monstrueuse bureaucratie gouvernementale que nous ne connaissons pas et qui s'en moque. Comparons à présent comment les femmes sages de Bethléem donnaient la vie de manière personnelle au sein de la communauté alors que les hommes sages apportaient une structure à la communauté. Les femmes de Bethléem ont accueilli Naomi quand elle est rentrée de Moab, et Naomi a pris la liberté de leur dire la vérité sur sa situation désespérée. À la fin de l'histoire, ces mêmes femmes qui avaient entendu son désespoir ont partagé sa joie. Elles ont offert en privé à Naomi une bénédiction accompagnée de détails personnels avec un accent sur sa personne, alors que les anciens ont donné à Ruth la bénédiction publique et à dimension régionale d'une reconnaissance historique. Étudiez le tableau qui suit pour comparer ces deux types de bénédictions. Tout le monde a besoin d'être béni autant en privé qu'en public. Et par conséquent, il est nécessaire d'avoir des hommes sages et des femmes sages dans toutes les communautés. Faisons un bond de 11 siècles jusqu'au livre des Actes, où nous trouvons deux allusions supplémentaires au rôle des femmes dans le domaine intérieur de la vie communautaire. Acte 13, verset 50. Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas, et ils les chassèrent de leur territoire. Quatre chapitres plus loin, nous lisons. Actes, chapitre 17, versets 11 à 12. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Remarquez le rôle des femmes de distinction dans ces communautés. Les Juifs incroyants qui voulaient que Paul et Barnabas soient rejetés à Antioche de Pisidie ont excité les femmes de distinction et les principaux de la ville. Sur une note plus heureuse, ce sont les hommes et les femmes de distinction qui ont accepté l'évangile à Bérée. Pour le bien ou pour le mal, le destin de ces communautés n'a pas dépendu uniquement des anciens de la ville, mais aussi des femmes de distinction. De telles femmes doivent être des dames de sagesse pour entraîner dans la bénédiction leur communauté, telle que celle de Bérée. Les femmes de folie, de l'autre côté, conduiront des villes entières vers la perdition, telles qu'Antioche de Pisidie. Le cœur d'un royaume. Nous allons maintenant examiner le plus vaste des domaines intérieurs, la civilisation proprement dite. La civilisation humaine est l'espace défini dans lequel les êtres humains ont fait des conquêtes, mis de l'ordre, bâti, gardé, embelli et fait prendre racine. Elle se distingue des espaces non conquis, de la sauvagerie et du barbarisme. Les femmes ont un rôle clé à jouer dans la préservation, non seulement de leur corps, mais aussi de leur maison ou encore de leurs âmes. Elles sont les gardiennes fondamentales de la civilisation et du patrimoine humain lui-même. La civilisation représente la culture à un stade raffiné et développé. Elle existe là où existe la mémoire, la moralité, les bonnes manières. Une telle civilisation ne perdure que lorsqu'elle vit dans le cœur et l'âme de ces femmes. Lorsque la moralité, les souvenirs, les bonnes manières, l'art, la foi et l'amour disparaissent des femmes de n'importe quelle société, alors le peuple meurt. Peu importe combien ces hommes soient courageux ou riches, la civilisation est morte parce qu'il ne reste ni vie ni beauté. Les hommes courageux peuvent défendre leur honneur jusqu'à la mort, sacrifiant leur vie pour des pierres ou des vestiges, mais ils n'auront plus de civilisation réelle et vivante pour laquelle se battre. Comment les hôtesses dirigent ? Dame Sagesse est présentée en tout premier lieu comme une hôtesse qui invite et préside. Tout comme elle, les femmes sages ont servi dans toutes les générations comme des hôtesses dans leur domaine. Et ce rôle est l'un des plus efficaces pour faire avancer les gens et pour influencer la société. Dans ce livre important sur la sexualité, sexe et pouvoir dans l'histoire, voici ce qu'écrit Amaury de Rincourt sur les femmes qui présidaient dans leur fameux salon au XVIIe et XVIIIe siècle. Chacune de ces femmes réglait la vie culturelle du pays, faisait honneur au talent, disciplinait le comportement tempétueux de ses invités masculins, réfrénait leur fierté non justifiée et à l'occasion encourageait des oiseaux rares qui étaient indûment humbles et timides. En toutes circonstances, elles s'assuraient que leurs invités, quelle que soit leur position sociale dans leur profession, pouvaient communiquer fructueusement les uns avec les autres sur un pied de complète égalité et de parfaite courtoisie. Elle savait également comment simuler la créativité en utilisant des encouragements et des louanges appropriés. L'abbé de Saint-Pierre, stupéfait de son succès inattendu et de sa popularité dans le salon de Madame Goffren, a admis qu'il avait simplement été un instrument dans les mains habiles de son hôtesse. Bien meilleur psychologue que ces messieurs outrecuidants, et aussi fondamentalement plus réaliste et plus modeste, ces hôtesses parlaient peu et écoutaient beaucoup, en sachant avec leur flair habituel comment conclure avec tact une conversation sans intérêt. Mais les hommes talentueux étaient toujours encouragés et s'en allaient tout à fait surpris de découvrir qu'ils étaient bien plus vifs d'esprit dans ce genre d'environnement que n'importe où ailleurs. Bon, c'est juste un exemple. Mais voyez-vous de nouveau les rôles de dame sagesse ? Ces hôtesses avaient la maîtrise de la langue. Elles pouvaient condamner la fierté, encourager les timides et exalter les sages. De Riencourt a écrit cela dans l'idée d'encourager la civilisation même, les arts, le patrimoine, toutes ces choses qui nous distinguent des animaux. Pour terminer sur une note plus épique, sainte et humble, souvenons-nous de Marthe de Béthanie. En tant qu'humble maîtresse de maison, elle a pu élargir le ministère de Jésus aux environs de Jérusalem par son hospitalité habituelle envers lui et tous ses disciples. Ne permettons pas à sa tendance à trop s'arrêter aux détails, à nous faire oublier que son courage à soutenir ce rabbi controversé a transformé le monde. De façon semblable, Lydie a permis l'accès à Paul et à l'évangile à toute l'Europe par son hospitalité et sa foi. En vérité, elle est un exemple d'une femme sage qui influence la civilisation à partir de la plateforme d'une réunion de prière de femmes. Dieu, qui n'est pas limité pour sauver au moyen d'un petit ou d'un grand nombre, utilise des reines et des femmes de distinction pour diriger la civilisation, mais il utilise aussi bien d'humbles servantes. Résumé de la leçon. Dit simplement, la sagesse est l'ensemble des principes de la création, les lois naturelles par lesquelles et avec lesquelles il a créé et soutient l'univers. Ces lois sont à la fois morales et physiques. Salomon personnifie cette sagesse comme une dame pour souligner que la sagesse, bien qu'elle soit impersonnelle, endosse des rôles féminins envers Dieu et les hommes. Décrite par Salomon, la dame sagesse est l'aide, la compagne et la glorificatrice de Dieu. Elle est celle qui réprimande, enseigne et conseille les hommes. L'aspect de la sagesse de la féminité, basé sur l'exemple de dame sagesse, et la mise en pratique de la sagesse humaine, est fondamental à la maturité de la femme. La sagesse humaine comporte la compétence et la perspicacité, enracinées dans la crainte du Seigneur. C'est seulement par la révérence envers Dieu, la compétence et la compréhension, que la femme accédera à la force intérieure et au respect, comme il sied à une femme à l'image de Dieu. Dans les rôles féminins de la sagesse, les femmes gardent et protègent leur âme, leur communauté et la civilisation elle-même.